Bienvenue dans Dessine-moi un corps, le podcast pour tous les amoureux du corps et d'histoire de l'art. Bonne écoute.
Nombril, je t'aime, astre du ventre, œil blanc dans le marbre sculpté, que l'amour a mis au centre, du sanctuaire où seul il entre, comme un cachet de volupté. Théophile Gautier, poésie libertine. Le nombril, donc le ventre. Dans la mythologie chinoise et indienne, le ventre est considéré comme le siège de l'âme. C'est aussi là où naît la vie. Comme l'a écrit Victor Hugo, le cerveau à la pensée, le cœur à l'amour, le ventre à la paternité et la maternité. Même dans la Bible, son rôle est très symbolique. Jonas n'est-il pas resté prisonnier dans le ventre d'une baleine pendant 3 jours avant d'être relâché et pardonné par Dieu ? À notre époque, la société en est même complètement obsédée. Obsession aussi en histoire de l'art liée à la représentation de la grossesse par exemple, ou bien le statut social défini par le nombre de bourrelets. Nous verrons dans cet épisode que le corps humain et ses métamorphoses nous donnent à voir bien plus qu'un simple bedon. Bonne écoute ! Le corps humain abrite et reflète les tensions sociales qui opposent hommes et femmes, puissants et opprimés. Il tend à la société un miroir où les formes se révèlent des repères essentiels de la civilisation occidentale. Pendant toute l'histoire de l'art, le canon du corps évolue au gré des tendances. L'exemple de l'Égypte antique sous le règne du pharaon Akhenaton est très probant. Il insuffla au cœur du nouvel empire un nouvel élan religieux pour la divinité Aton, doublé d'un idéal artistique étrange, à savoir un gros ventre ballonné, comme si on avait mangé une demi-douzaine de pois chiches, et des toutes petites jambes maigrelettes. Mais ce changement de canon reste très bref, puisque bien vite la tendance du corps filiforme revient en grande pompe dans l'iconographie à travers les siècles. Seule la figure du bouffon ou du drôle de service, si je puis dire, sera affublée d'un ventre proéminent, n'en déplaise à Rabelais et son personnage dans Gargantua. Puis on comprend assez vite qu'avoir un gros ventre, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle, est synonyme de prestige et de respectabilité chez les bourgeois. Si je résume, plus on est riche, plus on se porte bien. Cependant, la valorisation est ambiguë, puisque dans certains cas, un ventre proéminent peut être assimilé à une certaine vanité ou le refus du changement social. C'est aussi l'ambiguïté qui caractérise la représentation des corps féminins et masculins. L'homme, contrairement à la femme, peut tolérer une rondeur acceptable, tandis que la minceur et la fragilité sont les traits obligés de la silhouette féminine, comme le montre l'étude d'un homme de Charles Melon. Comme par hasard, on retrouve ici les dictats de la minceur opprimant le corps de la femme. Ça ne dérange pas qu'un homme soit pourvu d'une petite brioche, mais alors une femme avec du gras sera automatiquement mise dans la case « fille de mauvaise vie ». En témoignent les nombreux corsets de l'époque qui visaient à ce que les femmes aient une véritable taille de guêpe et un ventre excessivement plat, quitte à souffrir le martyre. Et si dans le cas contraire, une femme est bien portante et plutôt vue comme ronde, c'est bien entendu dans l'unique but de satisfaire les plaisirs de ces messieurs. Les préjugés ont la vie dure. Bizarrement, ce n'est pas le cas pour la représentation de la grossesse, puisque, rappelons-le, une femme naît pour enfanter si l'on en croit les Freud et autres philosophes de l'époque. Bon, par contre, évidemment, on a été longtemps gênés, parce que représenter une femme enceinte signifiait qu'elle n'était plus vierge. Mazette, la vérité de la palisse, me direz-vous. Et donc, évidemment, ça, le clergé, ils étaient moyens chauds. Les madones sont rares dans l'iconographie occidentale, ou alors exprimées avec timidité, genre la main sur le ventre ou vêtements discrètement tendus. Il ne faut surtout pas encourager le péché originel et tutti quanti. C'est un antagonisme car on sacralise la femme enceinte depuis l'époque moderne et en même temps, elle reste assez peu représentée. Celle qui parle le mieux de tous ces tabous liés à l'iconographie de la femme enceinte, c'est Julie du podcast Vénus et Pilait-elle la chatte qui a consacré un épisode entier sur le sujet que je vous recommande chaudement. Les femmes artistes vont totalement renverser la tendance en matière de représentation de la grossesse, comme la photographe néerlandaise Rineke Jikstra qui réalise un cliché d'elle un jour seulement après la naissance de son bébé, en dévoilant tout le corps postpartum et les tabous qui vont avec, bien sûr. La question de la sexualité pèse aussi dans la balance. Les formes généreuses, si elles sont vues comme fort potentiel de séduction chez Rubens ou Renoir, sont aussi vues comme sommet de l'érotisme chez Lucien Freud, qui se perd dans des ventres aux montagnes de chair. D'ailleurs, petit aparté, je voudrais mettre au jour un cliché qui nous vient de Napoléon, qui d'autre, lors de sa campagne en Égypte. C'est à lui que l'on doit l'appellation « danse du ventre » pour qualifier les danses orientales en Égypte et dans les pays du Proche-Orient. Or, ce terme est bien évidemment réducteur et renforce l'idée que le ventre est sexualisé. Les photographes Irving Penn, Patricia Schwartz, Ariane Lopez-Yucci ont eux aussi étudié la question du ventre chez la femme, alors sexualisée et objectivée par cette partie de son corps. Reflet de nos émotions, miroir de nos angoisses, épicentre de nos désirs, rien que ça. Le ventre est sans doute l'une des parties les plus importantes du corps humain. Bizarrement, je me suis interrogée si je devais en parler dans ces épisodes pour sa légitimité. mais j'ai vite compris qu'il a tout à fait sa place, car en histoire de l'art, il est omniprésent, parfois suggéré, mais toujours là, discret, sans bruit. J'espère que ce court épisode vous aura plu. Maintenant, c'est fini, cette série spéciale Partie du corps. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur un tout autre thème. À très vite, prenez soin de vous. Petit aparté, on fête déjà les 3 ans de Dessine-moi un corps. 3 ans, je n'en reviens pas. Le temps passe super vite. Pour fêter ça, rendez-vous très bientôt sur mon compte Instagram, Dessine-moi podcast. Je vous ai prévu une sacrée surprise. Je n'en dis pas plus. À très vite les amis.